Florian Lecture.
Bouillon de lecture, un bouillon d'été où on a choisi de vous lire un livre un peu plus en détail, par épisode. Nous avons choisi l'héritage de Cavanna, oui, le Cavanna de Harakiri et de Charlie Hebdo. François Cavanna est né en 1923 d'un père italien et d'une mère française. Il a vécu à Nogent-sur-Marne dans ce qu'il appelle lui-même une rue aritale. Et donc dans son livre, il raconte son enfance, la France des années 30, dans sa banlieue parisienne, avec un langage assez cru, assez imagé, qui se veut le langage de l'enfant qu'il était. Aujourd'hui, un chapitre qui parle du chômage, des étrangers qui viennent manger le pain des Français. Ça se passe dans les années 30, mais curieusement, on ne peut s'empêcher d'y voir un rapport avec l'actualité. Ça s'appelle le chômage, ou avec l'accent italien, le sumas.
Le sumas. Ça devait être en 1932, ou 33, enfin, par là. On appelait ça le chômage. Jamais entendu ce mot-là avant. Brusquement, les parents n'avaient plus eu que lui à la bouche. Le prononcer avec terreur, mais sans y croire vraiment. Le chômage, ça arrivait aux autres, pas à soi. On avait trop envie de travailler, trop besoin de sous. Un qui a envie de travailler, il a du travail. Ecco. S'il n'en trouve pas, c'est peut-être qu'il n'a pas tellement envie, tout au fond de lui. Si tu regardes bien, en France, du travail, il y en a toujours plus qu'on ne peut en faire. Dommage qu'on soit obligé de s'arrêter pour dormir, que sans ça, on tombe. Et voilà maintenant ce truc-là, ce chômage que les journaux donnaient tous les jours des chiffres de plus en plus épouvantables. Et les gueules des commerçants sur le marché qui coulaient par terre, toutes grises. Parce que ceux qui ont perdu leur boulot, ils n'achètent pas. Et ceux qui l'ont encore, ils se retiennent d'acheter pour quand ils l'auront perdu. L'héritage n'arrivait pas à comprendre. Des choses pareilles, ça les dépassait. Ils parlaient entre eux à voix basse pour ne pas attirer le malheur d'entreprises qui débauchaient. Chose inouïe. Comme si des pommiers se mettaient à donner des briques. Ça dépochait au compte-gouttes d'abord. On citait tel ou tel qui, jusqu'alors, travaillait à la tâche pour telle ou telle grosse boîte française et se faisait des sous gros comme lui. Et voilà, il s'était présenté le matin au bureau pour demander de l'embauche. On parlait de tel compagnon hautement qualifié, un qui sait lire le plan, quémandant de chantier en chantier n'importe quel boulot de manœuvre. Ça donnait à penser. Et puis, l'une après l'autre, les entreprises mettaient la clé sous la porte. Les chantiers restaient une jambe en l'air, les orties poussaient entre les murs sans toit, les échafaudages pourrissaient. Les entreprises ritales plus modestes, moins endettées en matériel mécanique, plus bricoleuses, donc plus souples, employant des gars sachant tout faire et tout faire avec rien, et cassant les prix, disaient les Français, résistèrent mieux, grâce au volant de petits chantiers qu'on se garde toujours de côté pour « quante qu'on aura un trou ». L'entreprise D. Cavanna et D. Taravella se cramponna aussi longtemps qu'elle put, raclant les bricoles au fond des banlieues. Débaucher un compagnon pour manque de commandes, c'est quelque chose comme le déshonneur. C'était aussi condamner à crever de faim un ami d'enfance, la plupart du temps un neveu, un cousin, un oncle. Vint quand même le jour où il fallut bien se décider à choisir qui serait mangé. D'abord les moins cousins, ça va de soi. Papa, bien que s'appelant Cavanna, authentiquement Cavanna, tout ce qu'il y a de plus Cavanna, était curieusement, mais je vous l'ai déjà dit tout ça, hein, peut-être le seul de toute l'équipe à n'avoir aucun lien de parenté avec les patrons, du moins aussi loin qu'on puisse remonter les générations. D'innombrables tribus de Taravella, de Toni, de Bocciarelli, de Sargente, de Perani, de Pianetti, de Rossi, tous liés par le sang sacré, se bousculaient, noirs et compacts, autour de la marmite à minestra. Le samedi soir où il s'amena à la maison, sa dernière paye à la main, maman vit tout de suite à sa tête que ça y était. Ils t'ont pas débauché quand même? Papa posa l'argent sur la toile cirée, s'assit, lui qui ne s'assiait que pour manger. « Bah, Elle est le soumaz. Maman s'assit aussi, tomba assise. Jambes fauchées, le monde s'écroulait. Puis vint la réaction. Et alors, c'est tout l'effet que ça te fait? Mais qu'est-ce qu'on va devenir, hein? Tu t'en fous pas mal de ce qu'on va devenir. T'as pas de tête, tu vis au jour le jour, l'oiseau sur la branche. T'as bien de la chance. Comment qu'on va manger, hein? Rien qu'avec ce que je ramène? J'ai beau faire, j'ai pas quatre bras, j'en ai que deux. On pourra même pas payer le loyer. Et le petit? Lui, il faut des beefsteaks au petit. Il est en pleine croissance. Je veux pas qu'il me tombe poitrinaire. Et qu'est-ce que je ferais s'il me tombait poitrinaire? C'est qu'on n'a pas les assurances, nous autres. Mais qu'est-ce qui m'a appris de prendre un maçon, le dernier des métiers, que même les chiens en veulent pas? Quand j'aurais pu avoir un employé des postes, un fonctionnaire, qu'il pleuve, qu'il vente, la paye tombe, et la retraite au bout, et pas toutes ces saloperies pleines de ciment à laver, que des ongles, j'en ai plus. Ça serait que moi, une pomme de terre à l'eau, une pincée de sel, hop, me v'la contente. Mais j'ai pas que moi à penser, hein. Faut voir plus loin que le bout de son nez. Toute la nuit comme ça, toutes les nuits l'une après l'autre, toutes les nuits l'intarissable grondement. Ça réveillait papa, il râlait, puis il se rappelait, il avait honte, il l'a fermé, changé de côté, se rendormait. Lui, il ronfle. Et ronfle donc que je te ronfle. Je peux bien me ronger les sangs, que demain on va être à la rue sans un crouton de pain, on ira mendier la soupe au fort comme des bourbaquis, si vous croyez que c'est ça qui va l'empêcher de dormir. Des hommes de merde comme ça, tiens-moi, je sais pas ce que je leur ferai. Toute la nuit, elle se décarcassait, se cherchait des lessives à faire en plus, mais elle n'était pas la seule à courir. Et les dames employeuses de laveuses à domicile, touchées elles-mêmes par la crise, lavaient de plus en plus leurs draps de leurs blanches mains, quitte à se les masser les mains, avec une crème exprès pour empêcher que ça devienne des mains de crocodile, des mains de pauvresse. Le pire pour papa, c'était d'aller pointer. Ils avaient fini par voter une allocation. Tu touches une carte de chômeur, t'allais pointer chez le commissaire, deux ou trois fois par semaine, je m'en rappelle plus, ça te donnait droit au petit secours. Mais fallait pas te faire piquer avec une truelle à la main, même pour rendre service. T'étais rayé, aussi sec. Et fallait accepter les boulots qu'on te proposait, même balayer la rue. Et bon, le bureau de pointage se trouvait au commissariat, dans ce beau vieux château d'où justement il y avait aussi la bibliothèque municipale. Le commissariat au premier étage, la bibliothèque au second. Le jeudi, j'allais échanger mes bouquins de la semaine. Je devais donc couper la queue des chômeurs qui poireautaient pour pointer. Elle descendait l'escalier, traversait la cour, serpentait loin dans la grande rue. J'avais l'habitude. C'était les chômeurs, quoi. Et puis un jour, il y a eu papa dans la queue. Il était là, sombre, les poings enfoncés dans les poches besaces de sa veste, au milieu de tous ces chômeurs français rigolards qui prenaient plutôt ça du bon côté. Il avait honte, le pauvre vieux. J'ai rasé le mur, me suis démerdé pour qu'il ne me voie pas. S'il avait su que son François l'avait vu, sûr, il en serait crevé.
Secrets there inside you, Annabelle. Born beneath an emerald sky, Saint Annabelle. Nothing that they did will stop you, Annabelle. Slim remind.
Un jour, le gouvernement s'avisa que c'était peut-être pas très malin de garder tous ces travailleurs ritals dans un pays qui n'avait pas assez de travail pour ses propres enfants. Jusque-là, il avait supporté parce que les chômeurs étaient des Français, des gens d'usines et de bureaux. Mais voilà qu'à leur tour, les chantiers débauchaient et que les ritals touchaient l'allocation. Ça, c'était plus possible. Absolument délirant. Je comprenais très bien tout parce que je le lisais dans les journaux que maman rapportait de chez ses patronnes. Candide, Gringoire, l'ami du peuple, l'Action française. Les journaux des patronnes expliquaient comme quoi, si la France en était là, c'était rapport aux métèques. Qu'ils avaient tout envahi et qu'ils pourrissaient tout. Il y avait dedans des dessins pleins qui disaient la même chose que les articles écrits, mais en raccourci. Très bien dessiné. Tu comprenais tout de suite. Même si tu étais trop pressé pour lire l'écrit ou que tu n'avais pas envie, d'un coup d'œil, tu te faisais ta petite idée de la chose. Et en plus, tu te marrais, parce que c'était des dessins humoristiques. Ça veut dire qu'ils sont faits pour faire rigoler les gens, mais pas bêtement, comme au cirque. Non, non, en leur faisant comprendre des choses difficiles. Par exemple, tu voyais une pieuvre sur une carte de l'Europe. C'était une sale bête de pieuvre, bien dégueulasse, l'air méchant comme tout, qui portait sur sa tête de pieuvre une espèce de bonnet pointu avec des rabatants pour les oreilles quand il fait froid et une étoile par devant. Elle serrait entre ses dents un couteau dégoulinant de sang. Elle avait un gros pif qui pendait comme une banane, des grosses épaisses lèvres répugnantes et un sourire de marchand de bretelles pas honnête. Ça voulait dire que cette pieuvre-là, c'était pas une vraie pieuvre, c'était une pieuvre symbolique, pour vous faire comprendre. Mais en vrai, c'était un juif. Le pif en banane pourrie et le sourire servile, dégueulasse, à te donner envie de botter le cul du mec, ça voulait dire un juif à tous les coups. C'était très facile. Une fois que tu connaissais le code, t'avais tout de suite compris. Pif en banane et sourire à dégueuler, pas de doute, c'est un juif. C'est chouette le dessin, ça facilite bien la compréhension de la politique, moi je trouve. Et de voir cette pieuvre visqueuse là qui étalait ses saloperies de tentacules pleins de ventouses que rien que de les regarder tu les sentais sur toi, gluant, glacé, te sucer le sang. De la voir s'étaler comme ça sur l'Europe, l'affreuse dégueulasserie, sur notre Europe à nous qu'on nous apprend à l'école, ça te faisait plus d'effet que quand tu lisais « La crise dont souffre l'Europe est le résultat d'une machination du judéo-bolchevisme international qui inlassablement tend à saper les valeurs traditionnelles sur lesquelles repose notre civilisation. » J'ai été passionnée de dessin encore plus tôt que de lecture. Forcément, là, pas besoin d'apprentissage. J'ai très vite su reconnaître un dessinateur rien qu'à son dessin, sans regarder la signature. Les gars de Gringoire, de Candide ou du Pèlerin étaient moins marrants que ceux de Ricérac ou du Dimanche illustré. Alors je les regardais en dernier. Mais ma boulimie d'imprimés dévorait tout. Ils s'appelaient Ralph Soupeau, Raoul Guérin, Pruvot, Pedro, Chancel, Gracier. Ils dessinaient toujours les mêmes bonshommes. On les reconnaissait très bien une fois qu'on avait l'habitude de les voir dessinés par un dessinateur. Car chaque dessinateur les faisait toujours exactement dans la même pose, sous le même angle et vu du même profil, parce que naturellement, c'est dur de faire les gens ressemblants. Et en plus, pour être bien sûr qu'on les reconnaisse, ils leur mettaient à la main un porte-document en cuir avec le nom du type écrit dessus. Il y avait Blum, un grand maigre avec un lorgnon et une grosse moustache. Duclos, un petit gros avec une grande bouche mauvaise, pleine de dents taillées en pointe. Torres, une espèce d'ouvrier costaud avec un petit nez et un toupet de cheveux. Ceux-là étaient toujours dessinés ridicules. On voyait bien que c'était des traîtres et des salauds. Il y avait aussi le colonel Delaroque. Lui, il était beau comme tout, se tenait bien droit, son regard respirait la loyauté. Il y avait M. Chiappe, un grand bel homme, et M. Laval. Celui-là, on voyait bien qu'il était simple et pas fier. Vraiment sympathique. Il y avait encore Staline, avec sa sale gueule de roi des Huns, au sourire fourbe et cruel. Hitler, la moustache dessinée à la règle, la mèche au compas, l'arrêt impeccable, un costume fraîchement repassé avec plein de poches et des bottes noires où il y avait une fenêtre dessinée pour faire comprendre qu'elles étaient bien astiquées et brillaient très fort parce que c'était l'ordre et la civilisation dressée contre la barbarie de la pieuvre malpropre que je vous racontais tout à l'heure. Il y avait la perfide Albion, une grande maigre avec des dents de cheval et un casque à plumes. Il y avait l'oncle Sam, un barbichu avec un haut de forme rayé et étoilé. Il y avait l'Allemagne, une grosse vache pleine de choucroute.
Sette giorni a Portofino, più di un mese a Saint-Tropez. Poi mi hai detto cocorito, non mi compri colpa te. E sei scappata a Malibu con un grossista di bijou. Susanna, 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 mon amour. E io turista ticinese, tu regina di Pica, indossavi un pechinese ed un triangolo di Strass. Ho detto vieni via con me, tu m'hai detto sì, io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va. Susanna, 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 mon amour. Susanna, 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 mon amour. E ora sono sulle spese, in balia degli usurai. Sovvenziono quattro streghe per poi sapere dove stai. E il tuo marito sta qui da me, che mangia e dorme come un re. Susanna, 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 dove sei? garçon lit ton bistrot en firmant ton maître quadro. Dis cambiare agli usurai, ma più niente so di te. Forse un giorno ritornerai. Susanna, 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 mon amour. Susanna, 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 mon amour. Susanna, 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 mon amour. Io ti aspetto, mon amour.
Les journaux des patronnes expliquaient que les Français étaient en pleine décadence, en pleine dégringolade, que d'ailleurs la France se dépeuplait, que tout ça était la faute à l'école laïque. Aux Juifs, aux Nègres, aux Boches qui ne payaient pas les dettes de guerre et qui nous inondaient de Kaamelott à vil prix parce que naturellement, qui ne paie pas ses dettes s'enrichit. Aux Italiens qui venaient manger le pain des Français et leur voler le travail. Et surtout aux Juifs et aux Bolcheviks qui excitaient les ouvriers du monde entier à ne rien foutre, à saboter les usines, à tuer les patrons et à être envieux de ceux qui s'étaient construit le petit pavillon au bout d'une vie tranquille d'économie. En ce qui concerne les Boches et les Italiens, remarquez, ça dépendait des jours. Les journaux des patronnes admiraient beaucoup Hitler et surtout Mussolini, ce qui leur compliquait un peu le travail. Heureusement, il y avait les Juifs. Quand tu te rappelais ça, tout devenait clair et logique. La contradiction disparaissait. Si l'Allemagne, malgré la droiture et l'énergie du chancelier Hitler, n'avait pas toujours l'air d'être l'ami de la France, c'était la faute aux Juifs. Ces salauds-là infestaient les hautes sphères de la finance, de l'industrie et du commerce. Ils changeaient en merde tout ce qu'ils touchaient. Tant qu'on n'en aurait pas fini une bonne fois avec eux, les peuples aux yeux clairs se déchireraient l'un l'autre. C'est comme ça. Dans le cas de l'Italie, qui n'a pour ainsi dire pas de juifs, c'était les juifs français qui foutaient la merde, ces dégénérés, en facilitant l'immigration clandestine des paysans ritales à qui ils faisaient ressentir leur saine frugalité, nécessaire pour construire la grandeur du pays comme une misère atroce, et à qui ils disaient qu'en France, il n'y avait qu'à se baisser pour amasser les billets de mille. En Allemagne, il y avait eu la fois où ils avaient voté pour Hitler. J'étais trop petit, je comprenais rien du tout. Je le vois bien maintenant. Sur la première page du Paris Soir exposé devant chez Santis, le libraire du bas de la rue, je lisais des titres énormes. Duel Hindenburg-Hitler. Je croyais que c'était un vrai duel à coups d'épée dans la gueule. Hindenburg, je le détestais. C'était un sale boche de sale boche. Maman me disait que pendant la guerre, il avait fait bombarder Paris. Une église même, le jour de Pâques. Faut être fumier, hein. Il y avait eu des tas de morts. Et puis rien que son nom, ça faisait peur, un nom à vous arracher la gueule, un vrai nom de boche. Tandis qu'Hitler, ça sonnait pas méchant. Ça faisait presque français avec sa petite moustache et sa mèche. Il avait un air pauvre et méritant, un peu rêveur. J'espérais bien qu'il gagnerait son duel contre cette sale gueule de vache d'Hindenburg. Et en effet, il le gagna. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre, j'étais bien content. Le coup du 6 février, j'ai pas compris grand-chose non plus. Il y avait Stavisky qui était un voleur, bon. Mais pourquoi les anciens combattants voulaient-ils foutre les députés à l'eau? Ça m'échappait. Quand j'ai appris que les manifestants, c'était la première fois que je lisais ce mot, coupaient les jarrets des chevaux des gardes républicains au moyen de rasoirs emmanchés à des cannes, alors là, je les ai détestés, ces sales cons. De toutes mes forces. Ça, je le pardonnais pas. Politique, mon cul. Je savais que je serais toujours contre ceux qui coupent les jarrets des chevaux. J'avais trouvé mon camp. Par la suite, j'ai pu me rendre compte qu'ils sont tous capables de couper les jarrets de chevaux. Et pas que les chevaux. Et pas que les jarrets. pour leur connerie si tellement importante. Oui. Un jour, donc, le gouvernement s'avisa pour lutter, qu'il disait, contre le chômage, de renvoyer chez eux tous les immigrés, c'est-à-dire tous les ritals. À part eux, en fait, d'immigrés, il n'y avait pas grand monde par nos banlieues. Tout étranger devait être muni d'une carte de séjour, un dépliant compliqué avec la tête de la République sur la première page. Si cette carte était de couleur bleue, son porteur était autorisé à exercer sur le sol français un travail rétribué. Si elle était verte, il avait le droit de séjourner, mais pas celui de travailler. Cette carte était renouvelable à certaines dates, tous les 2 ans peut-être bien. Vint l'époque où la carte bleue de papa devait être renouvelée. Entre-temps, le chômage s'était un peu tassé. Le bâtiment repartait tout doucement. Papa avait repris le boulot. Et voilà que des ritals revenaient de la préfecture de police où ils étaient allés faire renouveler leur carte bleue. Simple formalité. Un coup de tampon et voilà, pour 2 ans de mieux. Et merde, je t'en fous. On leur avait sucré la carte bleue et refilé à la place une carte verte. Interdit de travailler. Et valable 2 mois seulement. Repassez à ce moment-là, on verra si on vous la prolonge ou pas. Au suivant. Ça sentait mauvais. Encore plus mauvais quand, les 2 mois écoulés, on échangeait au Rital sa carte verte contre une signification de non-autorisation de séjour avec passage de la frontière obligatoire dans les 15 jours. Dis donc. Il commença à en partir pas mal. Des familles dont les gosses ne parlaient que le français, les parents s'efforçant de ne pas parler italien entre eux pour à embarrasser la tête aux petits, qu'ils ont déjà assez de mal comme ça d'apprendre une langue, alors qu'est-ce que ça serait avec deux que ça leur pèterait la tête ? Maman flairait un air mauvais. Maman n'est jamais la dernière quand il y a du mouron à se faire. Et papa revint avec la carte verte. Repassez dans 2 mois. Dans 2 mois et 15 jours, le billet d'aller simple pour Bettola, provincia di Piacenza, Italie. Maman foudroyée. Moi aussi ? Vous aussi, madame, bien entendu. Mais je suis française. Vous êtes italienne par votre mariage, madame. Avez-vous fait une demande expresse pour conserver votre nationalité d'origine ? Non ? Alors vous êtes italienne, aucun doute. Et le petit ? L'enfant peut rester. Il conserve le droit d'option jusqu'à sa majorité. Qu'est-ce qu'il fera sans nous ? C'est votre affaire, madame. Au suivant. Maman, c'est exactement le genre de bonne femme sur qui un truc comme ça devait tomber. On a eu droit au festival de monologues nocturnes. Aller dans ce pays de sauvages, de crève-la-faim, de va-nu-pieds, des pas francs, et les meubles, les 3 bouts de bois que lui avaient donné des patronnes au hasard des déménagements, astiqués chaque dimanche avec amour, avec furie, faudra les laisser là, les meubles ? Et leur langue de guignol, que j'en connais seulement pas un mot et que c'est même pas la peine que j'essaye, un charabia pareil. De quoi j'aurais l'air, je vous demande un peu. Qu'est-ce qu'on va devenir, moi et mon petit ? Se faire chasser de son propre pays comme des cagnagnous, c'est pas des malheurs. Moi qui ai toujours travaillé comme une bête, un sou, je l'ai jamais fait tort à personne. Et voilà comment on vous remercie. Ah, elle est belle, la France. Mais je m'en irai pas, ça non. J'aime mieux aller me jeter dans la Marne. À Nogent-sur-Marne, on ne dit pas « je vais me tuer », « je vais me suicider », « je vais me pendre », ni même « je vais me jeter à l'eau ». On dit « je vais me jeter dans la Marne ». Combien de fois l'ai-je entendu la petite phrase sinistre « j'en ai assez, je veux me jeter dans la Marne ». Par exemple, quand papa rentrait bourré, il est vrai que tout de suite après, elle ajoutait « et puis non, j'ai plus de fierté que ça, et puis ça leur ferait trop plaisir, marde ». À quelle mystérieuse inconnue ça aurait fait plaisir, ça, je ne l'ai jamais su. Une sale et longue période. Papa a cavalé les bureaux, accompagné par moi ou par les fils Taravella, Jean, qui avait une auto, était la gentillesse même et se dépatouillait bien dans la paperasserie. Au bout de tout cela, on décrochait un délai, accordé chichement par un bureaucrate à museau de rat constipé. Un petit délai gros comme une crotte de rat constipé. Un seul espoir, la naturalisation. Papa n'avait rien contre. La patrie, il est où qu'il est le travail. Écho. Beaucoup de ritals voyaient ça d'un sale œil, d'un qui s'était fait touraliser. On disait qu'il s'était vendu comme un mouton à la foire. N'empêche qu'ils finissaient tous, presque tous, par y passer, eux ou leurs fils. Ça ne se faisait d'ailleurs pas comme ça. C'était long, chiant, interminable. Il fallait en prouver des choses. Enfin bon, ça a fini par arriver. Un beau décret sur le papier timbré avec dessous comme signature pour Albert Lebrun, président de la République, son cabinet, illisible. C'était beau comme mon certificat d'études. Maman les aurait bien fait encadrer l'un et l'autre pour mettre au mur au-dessus de la cheminée et puis elle a réfléchi que ça ferait prétentieux. La fierté appartient qu'aux imbéciles. Et elle les a mis sous la pile de drap avec le livret de famille et mes photos de communion.
C'était donc un extrait du livre « L'héritage de Cavana », un livre de 1978 édité chez Belfond. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres extraits. À très bientôt !